Il est 18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Il faut suivre la vitesse de propagation. Et s'il s'avère qu'elle devient incontrôlable, je pense que le sujet du confinement ne doit pas être tabou.
Couvre-feu ou reconfinement ? À Marseille, les élus ne sont pas d'accord sur la meilleure solution à adopter face au rebond de l'épidémie.
Et à l'arrivée du variant anglais, on le sait partout en France, cette semaine sera décisive. Le Premier ministre n'exclut pas un reconfinement en dernier recours.
Pangolin, chauve-souris, près des trois quarts des maladies infectieuses qui affectent l'homme sont aujourd'hui issues des animaux. Fort de ce constat, des chercheurs du monde entier ont décidé de s'unir et de se coordonner pour identifier les zones à risque et alerter plus rapidement.
Au sommaire également ce soir, les députés qui mettent la dernière main au texte sur le séparatisme, ils multiplient les auditions pour aboutir à une loi la plus consensuelle possible.
Il a sans doute évité un bain de sang. Eugène Goodman, un nom prédestiné pour ce policier héroïque du Capitole qui a trompé les manifestants pro-Trump.
Et on écoutera l'hommage rendu à Georges Pernoud qui nous a aimés à aimer la mer par l'un de nos plus grands navigateurs, Loïc Perron.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en recul de 0,78% à 5662 points.
Et puis un coup d'œil au temps avec Anissa qui est avec nous en plateau. Bonsoir Anissa.
Oui, bonsoir Julien.
Le temps change demain.
Oui, ça y est, on en a fini avec le temps calme et sec de ces derniers jours. Une nouvelle perturbation arrive demain. Elle nous apporte de la pluie, de la neige et du vent. Les températures, elles, seront plus froides le matin et plus douces l'après-midi.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et déjà une trentaine de cas de la variante britannique détectés dans 7 régions françaises, notamment à Marseille, où les autorités traquent cette souche particulièrement virulente, pendant que les élus, eux, s'écharpent sur l'utilité du couvre-feu à 18h instauré ce week-end.
Oui, pour l'instant, tout laisse à penser que ce couvre-feu suffit, dit aujourd'hui Jean Castex, le Premier ministre, qui toutefois n'exclut pas un nouveau reconfinement en dernier recours.
Un reconfinement, c'est précisément ce que souhaite la première adjointe chargée des questions de santé, Michèle Rubirola, l'ancienne maire de Marseille. Stéphane Frangy, vous êtes le correspondant d'Europe 1 sur place.
La première adjointe qui ouvre la porte en effet et qui s'interroge, reconfiner et stopper ainsi la circulation du virus, pourquoi pas ? Après tout, elle qui ne croit pas au bénéfice d'un couvre-feu anticipé à 18h pour en avoir parlé avec des confrères médecins, mais elle est en désaccord complet avec le maire qui veut à tout prix éviter un nouveau confinement marseillais. La municipalité se désolidarise de Michèle Rubirola sur ce point, mais aujourd'hui, un élu d'opposition LR, Lionel Royer-Perrot, qui est maire d'un secteur justement concerné par le variant britannique, n'exclut pas cette idée.
À partir du moment où vous avez un cluster qui est implanté très vraisemblablement, ça va irriguer. Il faut suivre la vitesse de propagation et s'il s'avère qu'elle devient incontrôlable, je pense que le sujet du confinement ne doit pas être tabou et qu'il faut avoir le courage de le poser, de le dire à la population.
Mais à l'heure où les marins-pompiers et l'IHU du professeur Raoult multiplient tests et analyses pour suivre l'évolution du virus en général et de son variant en particulier, eh bien, la préfecture écarte de son côté l'idée d'un reconfinement pour le moment.
Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 à Marseille.
Alors au niveau national, ce que tout le monde redoute, c'est évidemment le contre-coup des fêtes de fin d'année qui pourrait entraîner un rebond épidémique.
Oui, mais pour savoir si rebond il y aura ou non, eh bien, il va falloir encore patienter quelques jours, hein, Mathieu Charrier.
Et oui, pour avoir les fameux chiffres consolidés. Alors, on a quand même des premiers éléments de réponse. D'abord, les contaminations à Noël, plus 17% par rapport à la semaine précédente. Ça veut dire que les Français ont plutôt bien respecté les gestes barrières. Il n'y a pas eu de flambée des cas. Est-ce de même pour le réveillon de la Saint-Sylvestre ? Si on regarde dans les eaux usées, le virus est plus présent que début décembre. Ça donne une tendance, c'est un indicateur. Mais une fois encore, il faut préciser et objectiver cette tendance. En fait, ce qui va compter aussi, ce n'est pas tellement le niveau de contamination au niveau national, mais surtout au niveau local, parce qu'il y a déjà de très fortes disparités selon les régions. Et donc, même si le chiffre des hospitalisations et des admissions en réanimation est stable au niveau national, certains hôpitaux, notamment dans l'Est ou le Sud-Est, sont déjà saturés.
Et alors, concernant le variant anglais, Mathieu, est-ce qu'on en sait un peu plus sur son niveau de circulation dans le pays ?
Alors oui et non. Oui, parce qu'une grande enquête a été lancée pour séquencer tous les tests PCR suspects sur les journées de jeudi et vendredi dernier dans tout le pays. Les résultats définitifs seront connus en milieu de semaine. Mais hier matin, sur Europe 1, Olivier Véran a expliqué que sur les 1000 premiers résultats, 1% des nouvelles contaminations étaient liées au variant anglais du Covid-19. Vous allez me dire 1%, c'est pas beaucoup. Eh bien, c'est déjà pas mal, puisque si ce chiffre venait à se confirmer, ça augmenterait considérablement notre R0, vous savez, le nombre de personnes que contamine un malade. En ce moment, on oscille autour de 1, ce qui est un résultat plutôt bon. Si on le dépasse largement, ça voudrait dire que les contaminations vont flamber.
Merci Mathieu Charrier, chef du service Société d'Europe 1. La France qui va pouvoir en tout cas compter sur le vaccin Moderna, ça y est, il est arrivé.
Oui, les 50 premières doses, 50 000. premières doses qui vont être distribuées en priorité aux régions les plus touchées, le Grand Est, l'Auvergne, Rhône-Alpes et en PACA.
Avantage, il est plus facile à stocker. On peut le garder au réfrigérateur pendant un mois et la congélation se fait seulement à moins 20 degrés.
Oui, de son côté, la société allemande BioNTech, associée à l'américain Pfizer, se dit en mesure de produire 2 milliards de doses d'ici la fin 2021. Chiffre largement plus élevé que son précédent objectif qui portait sur 1,3 milliard de doses.
Et cette nouvelle estimation tient notamment compte du nouveau standard qui permet d'administrer 6 doses par flacon au lieu de 5, ainsi que l'ouverture d'un nouveau site de production européen en Allemagne. En Grande-Bretagne, l'épidémie est considérée comme hors de contrôle, malgré une vaccination qui a démarré sur les chapeaux de roue. Objectif, vacciner 15 millions de personnes d'ici un mois. Les médecins estiment que le confinement dans sa forme actuelle est insuffisant.
Un an après l'apparition du virus en Chine, les experts de l'Organisation mondiale de la santé vont enfin pouvoir aller enquêter sur place. Mais pourront-ils vraiment mener des investigations en toute liberté? C'est la grande question. Pas sûr du tout, nous dira tout à l'heure Didier François dans le journal de 19h.
La crise du Covid qui s'invite au One Planet Summit consacré à la biodiversité.
Avec la présentation d'un projet associant des chercheurs de 50 pays, une alliance internationale pour prévenir les risques d'émergence de pandémies d'origine animale.
Comme nous l'explique Philippe Mauguin, il est le président de l'Institut national de la recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
Près des trois quarts des maladies infectieuses qui affectent l'homme aujourd'hui sont en fait issues des animaux, qui peuvent être des animaux sauvages comme des animaux domestiques, et ça continue de s'accélérer. Et quand on regarde, on essaye de comprendre pourquoi, on identifie le fait que les occasions d'interaction entre des animaux sauvages, on a parlé évidemment du pangolin, des chauves-souris, ces interactions se sont augmentées, notamment par la destruction de biodiversité, notamment par la déforestation, avec des animaux sauvages qui devraient rester dans leurs écosystèmes et qui vont se retrouver confrontés à des chasseurs, des braconneurs, des gens qui font la déforestation. Ils vont aussi chercher des nouveaux refuges et se retrouver en contact soit avec des animaux d'élevage, soit avec des humains. Donc notre projet, c'est d'avoir une coordination mondiale qui n'existait pas pour être capable d'identifier les zones à risque, de favoriser les bonnes pratiques. Et puis en faisant ça, on sait qu'on va aussi pouvoir mettre en place des systèmes de détection précoce qui vont nous permettre d'avoir des alertes plus rapides.
Le président de l'Institut national de la recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement au micro-Europe 1, Dan Le Gall.
18h07, la suite du journal avec l'inflammable projet de loi séparatisme qui arrive début février à l'Assemblée nationale.
Rebaptisé, vous le savez, loi confortant les principes républicains. Alors on se souvient qu'Emmanuel Macron, dans son discours des Mureaux, promettait de mettre tout le monde autour de la table.
Eh bien, la commission spéciale poursuit ses auditions. Elle a entendu aujourd'hui Aurélie Herbemont, plusieurs ministres et le président du Conseil français du culte musulman.
Oui, alors que ce texte est regardé avec une certaine méfiance par les responsables religieux, le président du Conseil français du culte musulman martèle que la lutte contre la radicalisation est un combat partagé avec le gouvernement, mais il met en garde contre les risques d'amalgame entre islam et extrémisme. Mohamed Moussaoui ne cache d'ailleurs pas ses inquiétudes face aux contrôles administratifs qui vont s'accroître sur les associations cultuelles.
Il y aura une dilettantisme qui va être pratiquée par les fonctionnaires zélés contre des associations, des personnes morales, comme il en existe déjà sur les personnes physiques.
Le président du CFCM salue en revanche des dispositions nécessaires, comme la lutte contre les pratiques dégradantes pour les femmes.
Les mariages forcés, l'excision, les certificats de virginité, pratiques prétendument musulmanes et qui portent atteinte à la dignité de la femme, sont prohibés par l'islam.
Autre sujet abordé par les parlementaires, la formation des imams. Emmanuel Macron souhaite qu'ils soient formés en France pour minimiser les influences étrangères. Le CFCM est d'accord sur le principe. Problème, le projet de charte est enlisé à cause de dissensions au sein de l'institution. Et ce n'est pas à l'Assemblée que ce sujet épineux pourra être réglé.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques secondes. On parlera de ce héros, le héros du Capitole. Il a sans doute évité un bain de sang.
Et puis l'hommage des marins à Georges Pernod.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Suite du journal avec Isabelle Millet, on part aux États-Unis. 4 jours après l'attaque du Capitole, l'Amérique salue aujourd'hui un héros.
Oui, vous avez sûrement vu ces images, ce policier noir qui recule alors que les manifestants se dirigent vers lui. Eh bien, cet homme a visiblement joué un rôle très important, Xavier Yvon. Il a même probablement sauvé des vies.
Et oui, il s'appelle Eugene Goodman. Retenez son nom car il a sauvé des vies, dit la journaliste de CNN qu'il a identifié. Parce qu'on comprend désormais que ce policier a volontairement détourné les émeutiers. Il a évité qu'il n'entre dans l'hémicycle alors que les sénateurs s'y trouvaient toujours. Sur la vidéo, on le voit, vous l'avez sûrement vu, matraque à la main, qui recule petit à petit face à la foule, mais sans jamais vraiment s'enfuir. En fait, il appâte les assaillants pour les éloigner du Sénat. À un moment, on le voit jeter un œil à gauche vers la porte ouverte de la salle et puis partir vers la droite tout en provoquant l'émeutier de tête pour qu'il le poursuive dans les escaliers. Quelques minutes précieuses qui permettent aux sénateurs d'être évacués. On sait maintenant que les partisans de Donald Trump venaient les chercher et on l'a vu plus tard, ils finiront par rentrer dans un Sénat vide. Ce policier noir, seul, face à un groupe d'émeutiers tous blancs et qui sauve les élus du peuple, un symbole et un héroïsme salué dans les médias et applaudi sur les réseaux sociaux. Certains réclament une médaille pour ce père de famille, ancien militaire déployé en Irak et désormais surnommé l'homme qui a sauvé le Sénat.
Merci Xavier Yvon.
Les États-Unis ou les démocrates passent à l'action pour tenter d'obtenir le départ de Donald Trump à 9 jours maintenant de la fin de son mandat.
Vous savez qu'ils sont bien décidés à précipiter sa sortie après les événements justement du Capitole. Eh bien, ils viennent de déposer un acte d'accusation. Première étape vers l'ouverture formelle attendue cette semaine d'une deuxième procédure de destitution contre le président américain. Ils ont également présenté une autre résolution demandant à Mike Pence, le vice-président, de démettre Trump de ses fonctions, invoquant le 25e amendement de la Constitution qui consiste à constater l'inaptitude du président.
Oui, on sera justement à Washington dans le journal tout à l'heure de 19h. Et puis vous savez qu'on a appris ce matin en France la disparition d'un grand monsieur de la télévision qui s'est invité tous les vendredis soirs dans le Salon des Français pendant plus de 40 ans avec son émission phare Thalassa sur France 3.
Georges Pernaud avait 73 ans. Il a contribué au premier pas de l'écologie, dit de lui ce soir Nicolas Hulot. Mais c'est surtout le monde de la mer qui lui rend hommage aujourd'hui à l'image des marins du Vendée Globe et du navigateur Loïc Perron.
Il a représenté beaucoup, il a énormément aidé au monde de la mer particulièrement. La voile étant l'une des facettes de la mer, mais il nous en a montré beaucoup plus que ça. Alors il est vrai que Thalassa et la chaîne et France 3 s'étaient un peu spécialisés dans les départs, les arrivées des courses, des transats. La plupart des gens qui nous voyaient dans la rue, qui nous reconnaissaient dans la rue, disaient « Ah, je vous ai vu sur Thalassa ». Il nous a rendu énormément de service, amoureux complet de la belle image, bien sûr, des marins et des aventuriers au sens large, parce qu'il s'est spécialisé en producteur, il a beaucoup produit par ailleurs, beaucoup de manières de découvrir la mer au sens large, la pêche, l'économie. Enfin, moi, j'ai trouvé ça toujours fascinant. Et puis, je me souviens très bien qu'on avait fait sa dernière émission ensemble, un hommage à Georges il y a quelques années. Et voilà. Bon, en tout cas, respect à sa famille et puis bon vent. C'est ce qu'il disait, je crois.
L'hommage de Loïc Perron à Georges Pernaud au micro européen de Corinne Boulou.
Absolument. Bon vent, mon cher Georges. Bon vent à toi. Merci Isabelle. On se retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres et à 19h pour le journal.